La carte Visa Orange Money, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
À suivre vos réactions, et elles sont nombreuses ce matin, pour parler de la lutte contre la déforestation, avec en toile de fond la situation en Côte d'Ivoire. En 60 ans, le pays a perdu 80% de ses forêts. Les chiffres sont éloquents. En 1960, au moment de l'indépendance, la surface forestière représentait plus de 16 millions d'hectares. Aujourd'hui, à peine 3 millions et demi. En cause, l'exploitation abusive du bois lié à la production de charbon ou à des coupes d'arbres pour l'exportation d'essences précieuses, mais aussi les fameux feux de brousse déclenchés par des agriculteurs qui gagnent ainsi de l'espace pour de nouvelles cultures de cacao. D'ailleurs, certaines forêts classées en Côte d'Ivoire ont presque été rayées de la carte du fait de la culture du cacao. Du coup, pour tenter de reboiser le territoire national, un nouveau code forestier vient d'être adopté. Les planteurs et les industriels sont associés à ce projet. Alors, qu'en est-il dans votre pays? Vous qui nous écoutez un peu partout sur le continent africain, appelez-nous, témoignez, quel constat dressez-vous, et parlez-nous, si toutefois il y en a, des initiatives qui sont prises par vos autorités ou par les ONG ou par les populations pour lutter contre la déforestation. On en parle durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Au standard, Achille est avec nous. Il est en Côte d'Ivoire. Il est à Abidjan, exactement. Bonjour Achille.
Bonjour.
Vous êtes assez sceptique, vous, hein, concernant ce nouveau code forestier. Vous dites c'est bien beau, mais ça ne sera pas appliqué.
Oui, parce que en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle la loi, il y a son application, et puis il y a ce qu'on appelle la méthode pour impressionner les institutions du Bretton Woods, Banque mondiale, FMI et autres. Vous savez, il est bien beau de voter une loi, mais demander au planteur qui est assis quelque part à Gauville si c'est ce que signifie le code forestier. Il n'y fait rien, parce que la publicité concernant ce code, ça se limite juste au communiqué du gouvernement et à ceux qui suivent le journal de 20 heures.
Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les populations concernées, celles qui vivent dans les plantations, par exemple, n'auront jamais accès à ce nouveau code forestier?
Mais comment est-ce qu'ils auront accès à ce code foncier si les plus grands déforesteurs, s'il faut utiliser le terme, ce sont les autorités? Comment on peut parler de sauvegarde de la forêt pendant qu'en ce même temps, on déclassifie des forêts réputées classées?
Mais quand vous dites que les principaux responsables, ce sont les autorités, à quoi faites-vous référence exactement, Olivier? Achille, pardon.
Dans nos régions, les forêts réputées classées sont déclassifiées, et les premiers à se servir à racheter ces forêts, ce ne sont pas les multinationales, ce sont les autorités politiques.
Achille, le réseau téléphone se dégrade considérablement. On va essayer de vous rappeler d'ici la fin de l'émission. En tout cas, merci d'avoir lancé le débat. Sur WhatsApp, Akumbu nous écrit du Gabon. Il nous dit que dans son pays, on ne cesse de renforcer la législation en matière de gestion durable des ressources forestières, avec, dit-il, l'interdiction d'exporter des grumes. Le bois doit d'abord être transformé sur place. Interdiction d'exploiter le Kevasingo, un bois qui est très rare. D'ailleurs, récemment, le vice-président de la République et le ministre des Forêts ont été limogés à cause d'un vaste trafic de Kevasingo. Et David nous informe qu'un nouveau code forestier est en cours d'adoption au Parlement gabonais. Merci donc pour ce témoignage. Bonjour Olivier. Allô Olivier, êtes-vous là? Visiblement, il est en pleine discussion avec ses camarades. Jean-Pierre, soyez le bienvenu.
Bienvenue, monsieur Juan. Vraiment, je vous reçois 5 sur 5.
Eh bien, nous aussi, Jean-Pierre, vous souhaitiez prendre la parole, on vous écoute.
Oui, concernant la République démocratique du Congo, qui est mon pays, vous savez que c'est le deuxième poumon économique, le bassin du Congo, après le bassin de l'Amazonie. Donc, la RDC regorge des grands atouts sur le plan de la forêt. Et il y a un grand philosophe congolais, Déoruiz Amagera, qui a dit que l'avenir du Congo, c'est la forêt. Il suffit pas seulement que ça soit l'avenir, il faut que cela profite au peuple congolais. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire qui a perdu 60% de sa forêt. Le Congo est en train de vivre pratiquement la même chose. Il y a des grandes sociétés qui exploitent les grumes, mais qui ne laissent que le désert. Parce qu'il aurait fallu, il y a eu un nouveau code forestier qui a instruit les exploitants de pouvoir aussi investir dans le social, construire des écoles, des hôpitaux. Mais, vous savez, M. Wan, à l'époque coloniale, les grumes, le bois, constituaient pratiquement 30% du budget national. Alors qu'actuellement, c'est même pas 1%. Alors, tout se fait dans la fraude. Évidemment.
Tout se fait dans la fraude, mais il y a tout de même un code forestier qui n'est donc pas respecté, à vous entendre, Jean-Pierre.
Mais qui n'est pas respecté. Vous savez, tout s'est fait dans la fraude, ça va dans les pays étrangers, et le budget national n'en bénéficie rien. Alors, évidemment, il y a eu des efforts.
Jean-Pierre, vous êtes assez critique à l'égard de vos autorités. Vous savez quoi, Olivier, que j'ai appelé il y a quelques instants, mais visiblement il n'était pas tout à fait prêt, Olivier nous a envoyé un commentaire WhatsApp. Il est inspecteur forestier, donc on s'est dit, on va le rappeler, évidemment. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Qu'avez-vous envie de répondre à Jean-Pierre lorsqu'il dit que le code forestier dans votre pays n'est pas respecté, vous, en tant qu'inspecteur forestier?
Bon, en fait, je ne concède pas en fait les déclarations de Jean-Pierre. Moi, je dirais tout de suite que je crois que le ministère de l'Environnement a fourni des efforts dans ce sens-là. Il y a un projet AG du Fort, appui à gestion à la durable des forêts, qui a aidé la RDC à avoir de plans d'aménagement forestier dans des concessions forestières.
Oui.
Et ces concessions ont pu s'inscrire dans l'exploitation forestière durable.
Oui. Enfin, Olivier, excusez-moi, Jean-Pierre parlait d'exemples très concrets, de multinationales qui exploitent illégalement la forêt congolaise. C'est un fait que vous contestez ?
Oh bon, en fait, moi, je des multinationales, je vois déjà qu'il y a des concessions, qui gèrent des concessions forestières. Alors, mais les concessions forestières, aujourd'hui, bon nombre se sont inscrits dans l'élaboration de plans d'aménagement forestier, où tout, il y a une description claire, la forêt n'est plus exploitée en désordre, la forêt est exploitée sur base d'un plan. Il y a des séries de production, des séries de conservation, des séries de développement, la zone de développement rural. Il y a également la zone de protection, les séries
donc
de protection.
Donc, vous diriez que la situation s'améliore en République démocratique du Congo, en tout cas, beaucoup dans le milieu environnemental se sont interrogés après l'élection de Félix Tshisekedi pour savoir si cette élection augurait de jours meilleurs pour la protection des forêts de votre pays, la RDC. Sur WhatsApp, Rassem Gay nous a écrit du Tchad. Il nous dit, dans mon pays, le Tchad, le gouvernement a initié depuis 2009 un projet de ceinture verte pour inciter à planter des arbres lors de la Semaine nationale de l'arbre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Les arbres meurent une fois plantés. Issaka, au Niger, nous raconte que tous les 3 août, donc le jour de la fête de l'indépendance, on fête également l'arbre. 3 août, fête de l'indépendance, fête de l'arbre. Et la journée est également consacrée donc à planter des arbres. Au standard, nous avons Mamadi qui est à Conakry. Bonjour Mamadi.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Voilà, effectivement, présentement en Guinée, nous sommes préoccupés par cette question de déforestation. La société civile a mené beaucoup d'actions dans ce sens, dans le cadre de la sensibilisation, notamment à Kindia,
oui.
Pour réduire la consommation du charbon de bois. Donc, il y a eu des actions de distribution des foyers améliorés pour permettre à la population de s'impliquer davantage dans la sensibilisation.
Ouais. Après, c'est-à-dire, concrètement, qu'avez-vous fait? Parce que vous nous parlez de charbon de bois. C'est vrai que l'utilisation du charbon de bois est l'une des raisons du déboisement. Je sais que dans votre pays, la Guinée, il y a une volonté au ministère de l'Environnement pour faire la promotion du gaz butane, c'est-à-dire convaincre les gens d'avoir accès au gaz butane plutôt que de continuer à utiliser du charbon de bois. Comment parvient-on à changer les comportements? Et surtout, est-ce que le gaz butane est accessible financièrement à tout le monde, parce que j'ai lu tout à l'heure sur Facebook un auditeur au Mali qui nous disait, mais pour nous, moi je n'ai pas les moyens de me procurer du gaz butane.
Évidemment, le gaz butane n'est pas à la portée de la population guinéenne pour l'instant. S'il n'y a pas de mesure d'accompagnement de la part du gouvernement pour permettre à cette population d'avoir accès, c'est la raison pour laquelle, avant que cette initiative soit prise par l'État, nous, les ONG, nous nous engageons à accompagner, ne serait-ce que pour réduire la consommation du charbon.
D'accord. Vous êtes, membre de quelle ONG exactement, Mamadi ?
Sauvons l'environnement guinéen.
Sauvons l'environnement guinéen. Le réseau décidément se dégrade. Ce matin, on n'a pas de chance avec les téléphones. Merci en tout cas de nous avoir contacté, Mamadi. Il y a Moussa qui est à Bamako et qui nous dit, quand je vois des camions surchargés de bois qui arrivent à Bamako pour servir les foyers, les boulangeries, je trouve cela lamentable pour un pays sahélien comme le nôtre. Taïrou nous écrit, lui, de Mopti, la déforestation est surtout liée à la vulnérabilité de certaines couches sociales, particulièrement les populations qui vivent uniquement de la vente du charbon de bois. Et avant de repasser au standard, je vous cite également le commentaire de Mamadou qui nous dit que la seule initiative valable, c'est une journée internationale obligatoire pour le reboisement. Chaque famille doit planter 5 arbres. Voilà la solution proposée par notre auditeur Mamadou de Bamako. 33 9 693 693 70. Bonjour David.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Libreville, au Gabon, et vous disiez au standard attendre beaucoup du nouveau ministre de l'Environnement et des Forêts dans votre pays.
Oui, tout à fait Juan. On a un nouveau ministre, le ministre Liwat, un Watt en même temps, donc un connaisseur de la forêt. C'est l'homme qu'il faut, vraiment à la place qu'il faut. Bon, moi j'attends plus ferme à ce qui concerne la forêt. Le territoire gabonais est couvert 80% de la forêt. Donc, on a beaucoup de convoitises, un peu de part et d'autre, en Europe comme en Asie. Les Chinois sont pleins au Gabon, les Européens sont pleins au Gabon pour cette forêt-là.
Donc, j'attends que alors justement, vous dites que les Européens, les Occidentaux sont là, les Chinois également. Il y a eu ce scandale, je citais le courrier envoyé par un auditeur également du Gabon qui faisait référence à ce scandale du Kevasingo, un bois très rare, très prisé, notamment par les Asiatiques. Comment éviter à l'avenir de tels scandales, de tels trafics?
Mais il faut une traçabilité. Le Kevasingo, c'est un bois qui met 100, 200 ans pour pousser, pour être en maturité. Donc, en interdiction de exploiter le Kevasingo, pourquoi? Parce que le gouvernement a constaté qu'il est en voie de disparition, il s'est fait rare. Donc, un bois qui fait 200 ans pour être en maturité, alors si on le coupe n'importe comment, alors on va manquer de bois, c'est la nature. Et quand on détruit la nature, on se détruit nous-mêmes.
Effectivement. Merci beaucoup. Merci David de cette réaction. 33 9 693 693 70. On me dit que Roland est avec nous. Bonjour.
Bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
D'où appelez-vous exactement?
Oui, j'appelle de la Guinée forestière.
Oui.
À Guinée-Conakry.
Très bien, on vous écoute, allez-y.
L'environnement est très dégradé chez nous. En dépit du fait que les Guinéens s'investissent beaucoup pour sa protection, il y a la formation bientôt, il y a la recrutement bientôt de 1500 conservateurs de nature qui vont être investis sur le terrain pour revenir en appui déjà aux nombreux gardes forestiers pour pouvoir au moins protéger quelques îlots de forêt classés chez nous.
Pourquoi vous avez l'impression que les forêts classées réduisent d'année en année?
Bien entendu, Juan, ça se réduit d'année en année par la coupe abusive de bois pour les besoins domestiques, par la construction anarchique. Tout le lit ou le cœur de la forêt est devenu une des grandes cités, des grands quartiers. Ils occupent là de façon anarchique. Tout récemment, l'État guinéen était en partenariat avec la Côte d'Ivoire, le long de la forêt avec la Côte d'Ivoire. Ils ont mis sur pied une brigade mixte pour pouvoir déloger tout un quartier des populations qui sont venues occuper illégalement le cœur de la forêt.
Et occupé par qui exactement, Roland?
Vous dites?
Occupé par qui? Vous dites qu'une partie de la forêt était occupée légalement.
Occupé par les populations.
Par les populations, mais alors. Non, mais très bien, Roland. J'entends bien, mais alors quelle alternative pour ces hommes et ces femmes qui certes occupaient illégalement la forêt, mais qui étaient, mais dont la forêt représentait visiblement le seul moyen de survie.
Ça représente le moyen de survie, mais aussi c'est une poignée de personnes qui viennent occuper par rapport à l'importance, grande importance que ça donne l'Antille pour le monde, et même pas seulement pour la Guinée. Alors moi je pense que c'est vrai, il y a une alternative que l'État guinéen doit proposer. Mais alors, l'État guinéen est limité par les moyens, pas financièrement est limité. Sinon, effectivement, il faut le reverser dans d'autres activités professionnelles.
Bien sûr.
Pour pouvoir au moins survivre.
Il faut des alternatives, évidemment. Merci Roland, je vous interromps et toutes nos excuses, hein, puisque depuis le début de l'émission, on a de gros problèmes avec les téléphones. On fait au mieux, évidemment, pour que les lignes soient meilleures, mais voilà, c'est indépendant de notre volonté. Certainement, les opérateurs téléphoniques, voilà, qui ne font pas le nécessaire. Voilà qui est dit. Allez, bonjour Denis.
Bonjour.
Vous êtes à Korogo, en Côte d'Ivoire. Vous souhaitiez revenir justement sur ce nouveau code forestier récemment adopté dans votre pays.
C'est vrai. En fait, moi, je crois qu'il faut d'abord même accorder le bénéfice du doute aux autorités, parce que c'est déjà bien d'avoir pris un nouveau code forestier pour réglementer un certain nombre de choses. Mais au-delà de ça, il faut reconnaître que il ne s'agit pas, parce qu'il y a des populations qui vivent dans ces forêts-là et qui survivent grâce aux fruits de la forêt. Mais si nous les chassons, de quoi ils vivront, ces personnes-là? Donc pour moi, il faut faire de telle sorte, il faut une organisation intelligente entre l'exploitation et surtout entre la préservation aussi. Parce que, en fait, quand vous avez des cultures comme le cacao, si on se tourne par exemple vers la recherche, s'il y a des recherches, par exemple, on peut faire une petite surface de production et une grande productivité, je pense que ça résout un cas soit peu le problème de l'exploitation. Mmh. Parce qu'on ne peut pas interdire, par exemple, aux paysans d'exploiter la forêt, de faire leur champ.
Bien sûr. Mais alors après, il faut qu'il y ait des sanctions. Et visiblement, enfin ce n'est pas visiblement, c'est écrit noir sur blanc, le nouveau code forestier prévoit un renforcement des sanctions, 5 ans de prison et une amende de 50 millions de francs CFA en cas d'occupation illégale de zones réservées. Vous pensez que voilà, le fait de devoir payer peut-être 50 millions de francs CFA si on ne respecte pas le code, cela peut inciter la population, mais aussi les producteurs, les planteurs, à respecter les règles?
Oui, absolument. Absolument. S'il y a des sanctions, il va sans dire que forcément quelqu'un qui n'a pas envie de payer 50 millions, 50 millions, c'est pas quand même 50 francs.
Oui.
Donc obligatoirement, les populations seront amenées à respecter le code. Mais voilà, je le dis, il faut le faire de manière intelligente. C'est de permettre justement la productivité, de faire des centres de recherche pour que les cultures qu'on puisse prendre, ne puisse pas prendre un grand périmètre pour faire la culture. Si on prend un hectare et qu'on a plus de 5 tonnes, 6 tonnes à l'hectare, je pense que le paysan n'a pas intérêt à reprendre 10 hectares ou 15 hectares.
Bien
il
sûr.
Va se contenter de ces 1 hectare.
Bon,
si on ne fait pas de recherche, parce qu'en réalité...
J'ai bien compris, j'essaye de vous interrompre poliment depuis 30 secondes, je n'y arrive pas, donc je le fais un peu brusquement. Hein. Je suis désolé, je sais que c'est un sujet qui visiblement vous tenait à cœur, on est obligé d'arrêter voilà l'émission, c'est ainsi, on a 20 minutes, on s'excuse une fois de plus pour tous les problèmes de liaison téléphone, on fera mieux demain. Vous continuez à nous envoyer évidemment vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. J'ai par exemple Trésor à Kisangani qui constate lui que le législateur congolais n'a pas encore fait de l'environnement sa priorité car il ne suffit pas de fixer des règles protectrices. Encore faut-il que la répression soit effective. On en parlait justement à l'instant avec cet auditeur de Côte d'Ivoire. Demain, on parlera de la République démocratique du Congo. 6 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi, le pays, vous le savez, n'a toujours pas de nouveau gouvernement, mais la fumée blanche pourrait apparaître prochainement. Le nouveau et l'ancien président se sont encore vus cette semaine. D'ailleurs, une photo a fuité dans la presse. On les voit tous les deux sabrant le champagne. Et vous l'avez certainement entendu ce matin sur l'antenne de RFI. L'un des négociateurs du camp, Kabila, affirme